Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La classification phylogénétique du vivant, tome 2, 4e édition, est un ouvrage de référence consacré aux métazoaires, c'est-à-dire aux animaux. Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader y proposent une synthèse de systématique phylogénétique illustrée par Dominique Vissette et publiée chez Bellin en 2017. Le livre ne cherche pas à ranger les organismes selon une simple ressemblance extérieure ou selon les catégories héritées de la tradition. Il examine les parentés évolutives afin de reconstruire des groupes issus d'un ancêtre commun et comprenant tous ses descendants. Cette édition, entièrement remaniée à la lumière des connaissances alors disponibles, couvre notamment les cnidaires, mollusques, arthropodes, insectes, échinodermes, vertébrés, mammifères, primates, squamates, oiseaux et téléostéens. Sa forme en fiche, liée au nœud des arbres, facilite la consultation tout en maintenant une forte exigence scientifique. L'ouvrage a donc une double fonction, expliquer les principes de la classification cladistique et fournir un instrument documenté pour parcourir la diversité animale dans une perspective historique et évolutive. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, classer les animaux par parenté plutôt que par ressemblance. Le principe directeur du volume est que la classification doit refléter la généalogie des êtres vivants. Un groupe pertinent en phylogénie est un clade, il réunit un ancêtre commun hypothétique et l'ensemble de ses descendants. Cette règle transforme profondément le regard porté sur les catégories familières. Une ressemblance générale, un habitat commun ou un mode de déplacement identique ne suffisent pas à établir une parenté proche. Il faut identifier des caractères dérivés partagés, c'est-à-dire des innovations apparues chez un ancêtre et transmises à sa descendance. L'ouvrage donne ainsi les moyens de comprendre pourquoi certaines classifications usuelles sont abandonnées ou redéfinies. Les reptiles, si les oiseaux en sont exclus, ne forment pas un groupe conforme à cette logique, puisque les oiseaux partagent une histoire évolutive avec les crocodiliens. De même, les poissons traditionnels ne correspondent pas à un ensemble unique si les tétrapodes sont écartés de leurs proches parents aquatiques. Ce déplacement du vocabulaire n'est pas un goût pour la complication terminologique. Il vise à éviter les groupes incomplets et à faire de la classification une hypothèse explicite sur l'histoire du vivant. Le lecteur apprend donc à distinguer la simple analogie fonctionnelle de l'homologie, beaucoup plus informative, pour reconstruire les parentés. Deuxièmement, une consultation par nœud pour suivre la ramification de l'arbre animal. L'architecture du tome repose sur une progression à travers les branches de l'arbre phylogénétique. Chaque fiche correspond à un groupe et permet de passer des ensembles les plus vastes aux clades plus restreints. Cette organisation évite de présenter la diversité animale comme une succession de rangs fixes et isolés. Elle montre au contraire que tout taxon prend sens par sa position dans une ramification et par les caractères qui justifient son regroupement. Pour chaque ensemble, les auteurs indiquent les innovations évolutives attribuées à son ancêtre, ainsi que des données telles que le nombre d'espèces ou le plus ancien fossile connu. Les informations écologiques et géographiques complètent cette présentation sans se substituer aux critères centraux de parenté. Le dispositif est particulièrement utile dans un ouvrage de plus de 800 pages, car il autorise deux usages. Une lecture suivie permet de saisir l'emboîtement des grands clades, depuis les métazoaires jusqu'aux groupes plus spécialisés. Une consultation ciblée permet de vérifier les caractères et la place d'un groupe, comme les hexapodes, les mammifères ou les téléostéens. Le livret final d'arbres phylogénétiques, qui sert de repère général, renforce ce rôle de cartographie. La forme éditoriale traduit ainsi le contenu scientifique, la classification est un réseau de relations historiques, non une liste figée de noms. Troisièmement, une synthèse structurée des grands clades des métazoaires, le choix de consacrer intégralement ce second tome aux animaux donne au livre une ampleur taxonomique inhabituelle. Les auteurs traitent les métazoaires à travers des arbres consacrés notamment aux cnidaires, protostomiens, mollusques, euarthropodes, hexapodes, eumétaboles, deutérostomiens, échinodermes, sarcoptérygiens, mammifères, primates, squamates, oiseaux, actinoptérygiens et téléostéens. Cette couverture ne consiste pas en un inventaire encyclopédique d'espèces. Elle sélectionne les nœuds qui permettent de comprendre comment les principaux embranchements et lignées animales s'articulent. L'intérêt pédagogique est de replacer des organismes très connus dans des ensembles plus vastes et parfois moins intuitifs. Les insectes sont étudiés dans le cadre des zooarthropodes, puis des hexapodes. Les humains sont situés au sein des primates, des mammifères et des sarcoptérygiens. Les oiseaux ne sont pas traités comme une catégorie séparée de toute histoire reptilienne. Cette imbrication rend visible le caractère hiérarchique des clades. Elle rappelle également que les animaux ne se réduisent pas aux vertébrés, souvent surreprésentés dans les représentations ordinaires de la biodiversité. La place accordée aux cnidaires, mollusques, arthropodes et échinodermes aide à restituer la profondeur de la diversification animale. Le volume relie ainsi l'étude détaillée des groupes familiers à une vue d'ensemble cohérente des parentés entre lignées. Quatrièmement, croisère morphologie. Fossiles et données moléculaires sans figer les résultats. La systématique phylogénétique exposée dans l'ouvrage repose sur la confrontation de plusieurs sources d'informations. Les structures anatomiques et morphologiques restent essentielles lorsqu'elles permettent d'identifier des homologies, tandis que les fossiles renseignent sur l'ancienneté connue de certaines lignées et sur des formes disparues. Les données moléculaires apportent de leur côté des caractères supplémentaires pour évaluer les relations de parenté. Le livre ne présente pas ces approches comme concurrentes par principe, leur intérêt est de contribuer à une reconstruction argumentée des arbres. Cette démarche explique aussi pourquoi les classifications changent. Une nouvelle analyse, de nouveaux fossiles ou un échantillonnage génétique plus large peuvent conduire à réviser une hypothèse antérieure. La quatrième édition a précisément été remaniée pour intégrer les découvertes récentes disponibles lors de sa publication. Les auteurs ne masquent donc pas le caractère provisoire des arrangements proposés. Provisoire ne signifie pas arbitraire, les groupes sont retenus à partir de caractères explicités et de méthodes susceptibles d'être discutées ou réfutées. Cette distinction est importante pour l'enseignement. Elle évite de remplacer l'ancienne vision immobile des catégories naturelles par une nouvelle nomenclature à mémoriser passivement. Le lecteur comprend que l'arbre phylogénétique est un modèle scientifique, fondé sur des preuves et révisable lorsque celle-ci évolue. En dernier lieu, des illustrations scientifiques au service d'une lecture exigeante, la densité du sujet impose une médiation visuelle précise, assurée ici par les dessins de Dominique Visset. Le choix de l'illustration naturaliste et scientifique plutôt que de la photographie répond à une fonction analytique, isoler les caractères utiles, montrer une structure, comparer des formes et rendre lisible une innovation évolutive. Dans un livre consacré aux relations de parenté, l'image ne sert donc pas uniquement à identifier un animal ou à embellir la page. Elle aide à relier un trait anatomique à l'argument qui soutient un clade. Cette clarté graphique accompagne un appareil conceptuel exigeant, où les termes de clade, caractères dérivés, homologie ou ancêtres communs doivent être employés avec précision. Le volume comporte un lexique et une présentation des principes phylogénétiques. Élément important pour des lecteurs qui ne maîtrisent pas d'emblée le vocabulaire de la systématique. L'accessibilité reste néanmoins relative à la richesse des groupes, la taille de l'ouvrage et la technicité des notions demandent du temps de lecture et quelques bases en biologie. Il ne s'agit pas d'une initiation légère à la faune. Sa force est plutôt de proposer une ressource durable, lisible sur table de travail, où dessins, fichiers arbres rendent consultable une matière complexe. Les retours de lecteurs soulignent cette qualité documentaire, tout en confirmant que l'ouvrage bénéficie surtout à un lectorat disposé à étudier activement. En conclusion, ce tome s'adresse en priorité aux étudiants en biologie, aux enseignants de sciences de la vie, aux naturalistes, ainsi qu'aux lecteurs déjà engagés dans l'étude de l'évolution et de la diversité animale. Il peut aussi servir à toute personne souhaitant dépasser les catégories scolaires ou usuelles pour comprendre ce que signifie réellement classer des organismes selon leur histoire. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir une méthode de lecture du vivant, repérer les caractères dérivés, situer un groupe dans un arbre, distinguer parenté et ressemblance et accepter qu'une classification scientifique soit révisable. Sur le plan pratique, la structure en fiche. Les arbres et les indications sur fossiles, diversité spécifique et répartition permettent d'en faire un outil de consultation aussi bien qu'un support de travail approfondi. L'ouvrage se distingue des guides zoologiques centrés sur l'identification, comme des manuels d'évolution plus généraux, par l'articulation étroite entre méthode phylogénétique et traitement détaillé des grands clades animaux. Il ne se limite pas à affirmer que les espèces évoluent. Il montre comment cette histoire conduit à organiser les groupes et à rediscuter des catégories traditionnelles. La mise à jour de cette quatrième édition, l'ampleur de son corpus animal et la qualité de ses illustrations renforcent sa valeur de référence. Son exigence terminologique et son volume imposant constituent une limite pour le débutant absolu, mais aussi la contrepartie d'une synthèse substantielle, structurée et scientifiquement argumentée. Si vous souhaitez soutenir Guillaume Lecointre, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.